Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Salut! Aujourd'hui sur le plateau de la collective, je suis accompagnée de Alizé.
Salut!
Et de Vanessa.
Salut!
Et de Clara à la technique.
Salut!
Ce mois-ci, on vous propose de continuer à explorer le sujet de la famille. Après avoir reçu le mois dernier Frédérica et Sandrine pour parler de famille monoparentale, ce mois-ci, on va essayer de regarder ce qui se cache derrière le concept de famille nucléaire. Mais en attendant, on revient sur la manif du 8 mars dernier, organisée par le collectif féministe du même nom, où de nombreuses voix se sont élevées pour la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Nous étions 600 et c'était un moment incroyable.
Les attaques sont multiples, mais les résistances le sont aussi. La parole se libère, la solidarité s'affirme. Forte, nous sommes fortes de ce qui a été gagné de haute lutte. Nous sommes fortes des lignées féministes qui nous ont ouvert la voie. Nous pouvons faire fléchir et nous devons faire fléchir les politiques. Nous devons faire évoluer les droits en changeant les lois et les mentalités. Nous réaffirmons notre soutien aux résistances qui émanent des femmes et groupes minorisés du monde entier. Dans tous les domaines et partout où se niche le sexisme, nous sommes là! Et créons un rapport de force avec les politiques! Apprenons à décrypter les discours! Soyons vigilants, vigilantes aux effets d'annonce! Intégrons des associations, des collectifs! Exigeons des moyens matériels!
C'est pour toutes ces raisons que nous voilà unis aujourd'hui, en grève féministe et en manifestation. Le 8 mars, c'est l'occasion de créer ce rapport de force. C'est l'occasion de créer de nouvelles formes de lutte et de résistance qui doivent s'ancrer dans le temps. Contre les politiques sexistes, réactionnaires et d'extrême droite, et pour un monde égalitaire...
Résistance !
Et merci pour votre ferveur et vos slogans et vos voix et votre joie et votre colère aussi. On prend tout, on prend tout. Ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour...
Nous sommes fiers et féministes et radicales.
Bon, bah maintenant qu'on s'est bien auto-félicité, on peut retrouver la chronique Feel Good de Vanessa.
J'aime pas la famille. Mais bon, je me suis dit qu'à 41 ans, il était temps de quitter ma posture d'ado et de vous raconter des trucs plus intéressants sur le sujet. Je voulais vous parler de ces potes qui essaient d'inventer d'autres modèles. Vous dire à quel point j'avais été impressionnée par Sandrine et Frédérica, les deux mamans solo qui sont venues parler au micro de la collective le mois dernier. Je voulais vous raconter à quel point ça a été cool de grandir à proximité de ma grand-mère. Et puis, à la radio, je tombe sur de nombreuses émissions sur les procès de Mazan. J'entends la défense de ces hommes qui se sont sentis autorisés à violer une femme inconsciente parce que le mari leur avait donné la permission. J'apprends que le viol conjugal est interdit seulement depuis 1992. Sur ma table de chevet, il y a le bouquin « Triste tigre » de Neige Sino qui raconte l'inceste dont elle a été victime. Lors d'un entretien d'embauche pour un travail de bergère, L'employeur, qui face à nos questions sur l'état sanitaire du troupeau, nous répond « Pas d'inquiétude, c'est précisé dans le contrat que nous gérons l'estive en bon père de famille. » Il n'aurait pas pu plus nous inquiéter. À la radio encore, une émission sur l'histoire de l'héritage. J'y apprends que des historiens ont fait une étude sur la ville de Florence. Sur les 5 familles ayant les plus hauts revenus en 2014, 4 faisaient déjà partie des 3% les plus riches en 1427. Donc voilà, en dépit de ma grand-mère et de Sandrine et de Frédérica, j'ai quand même envie de vous dire que je déteste la famille et que c'est finalement peut-être pas une posture d'ado attardé. J'ai jamais voulu fonder une famille. Et à 41 ans, j'ai réalisé toutes mes aspirations familiales puisque je vis seule avec une vieille chatte semi-incontinente. Je me doute bien que pour beaucoup, cela ressemble à un cauchemar. Mais moi, je kiffe ma vie avec Titi. J'ai jamais voulu fonder une famille, et si je suis honnête, je suis triste quand mes amis s'installent en couple ou font des enfants, parce que je vois bien qu'ils vont devenir une famille et qu'ils auront moins de disponibilité pour faire des soirées pyjama où on se raconte nos vies jusqu'à 2h du matin. J'ai jamais voulu fonder une famille, mais avant la chatte incontinente, j'ai fait famille avec un chien. Un chien que j'ai aimé très très fort. Un chien que je n'ai pas aimé en dépit d'autre chose. Je ne l'ai pas aimé à la place d'un enfant ou d'un conjoint. Je l'ai aimé parce qu'il était un chien. C'est l'un des trucs que je déteste dans la famille. Ce besoin que les autres soient un peu semblables à nous-mêmes pour les aimer. Ce besoin de partager avec eux des gènes, du sang, un nom pour pouvoir les aimer. Je déteste ça parce que j'y vois le début d'un nous opposable aux autres. Un nous qui passerait avant les autres. J'ai eu des amis avec qui je partageais le désir d'une société égalitaire, qui ont ensuite bataillé pour que leurs enfants aillent dans les meilleures écoles, quitte à choisir le privé ou à déménager dans un quartier de riches. Comme si une fois qu'on a des enfants, c'est acceptable de lutter pour l'avenir individuel de l'enfant plutôt que pour une meilleure société qui s'occupe de l'avenir de tous les enfants. Peut-être que je ferais pas mieux si j'avais des gamins. Mais du coup, ça me semble plus sain de faire famille avec des chiens et des chats garbataires. Aux infos, j'entends l'expulsion par la police du théâtre de la Gaîté Lyrique, où des enfants sans papier, sans abri et sans famille à leur côté avaient trouvé refuge. Cette frontière entre le « nous » et les autres, il me semble qu'elle a un lien avec le fait que l'on accepte que des enfants soient jetés à la rue en plein hiver. Ce gouffre entre l'intérêt pour « nos enfants » et le désintérêt pour les enfants des autres. Je déteste la famille parce que j'ai une cousine, riche commerçante à Genève, proprio d'une maison en Haute-Savoie, dont les gosses iront sans doute dans les meilleures écoles, qui avait fait sur Facebook un post pour dire qu'un camp de Roms s'était installé dans son village et qu'il fallait les « dégager au Karcher » pour que « nos petites têtes blondes puissent aller à l'école en paix ». Je déteste la famille parce que j'ai travaillé 15 ans comme photographe de mariage. J'ai ainsi assisté à des dizaines de discours des parents de mariés, issus de la haute bourgeoisie, qui félicitaient leurs gamins pour leur mérite, leur sens du travail et leur intelligence qui leur avaient permis de si bien réussir. J'ai passé 15 ans à grincer des dents et à avoir envie de hurler « Mais votre fils a réussi parce que vous lui avez légué des sous, une entreprise, fait faire les meilleures écoles. Vous l'avez envoyé en séjour linguistique, vous lui avez payé des cours du soir. Votre fils n'a aucun mérite. Il a réussi parce qu'il est né dans une famille de riches et parce que notre société a choisi de perpétuer les inégalités plutôt que de lutter contre, bande de tocards. » Bon, même si ça aurait fait un très beau final, il était peut-être temps que j'arrête. Bon allez, peut-être bien que c'est pas la famille en soi que je déteste, mais la famille comme vecteur d'inégalité, de rapport de domination. Peut-être que détester la famille, c'est une posture que j'adopte face à la valeur famille que défendent la clique des réactionnaires et conservateurs. Mais bien sûr que je sais qu'elle peut aussi être un lieu de refuge ou mieux encore un moteur de lutte. Je pense bien sûr à Sandrine et Frédérica et aux autres mères solo. Je pense aussi à Fatima Wassak et au Front de Mère. Le Front de Mère, c'est un syndicat de parents dans les quartiers populaires qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants. Ou comment faire du désir d'une vie meilleure pour ses enfants un moteur de lutte collective et non une stratégie de réussite individuelle. Alors oui, je déteste la famille, mais surtout, j'ai très envie qu'on me fasse changer d'avis avec d'autres exemples et d'autres modèles.
Et oui, car il y a une petite musique entêtante, pas forcément explicite mais omniprésente, qui nous dit qu'il y aura un modèle naturel de la famille. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants, comme disaient les réacs en 2012. Toute organisation familiale qui sortirait de ce cadre serait donc hors norme. Alors déjà, quand on parle de famille, si on entend parents plus enfants, 25% des familles sont des familles monoparentales. Alors comme le dit Judith Duportail dans Maternité rebelle, est-il raisonnable de qualifier d'en dehors de la norme 2 millions de familles ? 34% des familles si on combine les monoparentales et les recomposées. Ça c'est un premier point, mais au-delà de ça, il est assez aisé de montrer que le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire une construction familiale qui repose sur deux parents plus des enfants, ça n'a rien de naturel, c'est une construction sociale. Pour s'en convaincre, on peut par exemple regarder du côté de l'histoire de l'adoption internationale. Comme le modèle de la famille n'est pas universel, des agences d'adoption internationale peu scrupuleuses ont pu abuser de ces différences de conception. On cite ici Amandine Gay.
Feneke Ressou a aussi montré que des agences d'adoption privées exploitent un malentendu sur ce que représente l'adoption internationale pour certaines mères dans les pays du Sud. Quand des formes de coparentalité ou de circulation d'enfants au sein d'une famille élargie existent, la représentation de l'adoption internationale que font certaines agences peut ressembler à s'y méprendre à des pratiques qui existent déjà localement. Je pense par exemple au placement intrafamilial qui se pratique dans la Caraïbe, en Martinique, etc. Il peut parfois durer plusieurs années, mais ne remet jamais en question la filiation. Quand des amis caribéens, caribéennes ou africains, africaines me disent « c'est ma sœur », je leur réponds « même père, même mère ?» Parce que je sais que souvent, leur réponse sera « ah non, c'est ma cousine, mais elle a vécu avec nous pendant des années, donc c'est ma sœur ». Votre enfant reste le vôtre, même s'il vit depuis 15 ans chez une tante, un oncle ou une famille européenne.
Et là déjà, on voit que notre perception peut s'élargir. Les liens filiaux, familiaux sont à géométrie variable. Selon les pays et les époques, le modèle de la famille nucléaire a fluctué, voire coexisté, avec d'autres modèles comme celui de la famille élargie, dans lesquels des parents, grands-parents, tantes, oncles, cousins, cousines, cohabitent et s'entraident, y compris en Occident. Cette idée de la famille comme un papa, une maman, deux enfants, une maison et un chien, c'est donc plus un mythe qu'une réalité pour la plupart des gens.
L'autre mythe, c'est celui de la famille comme cocon, refuge, lieu de sécurité face aux violences du monde, qui peut s'illustrer avec cette inquiétude lorsque les filles rentrent tard le soir, cette peur d'une agression dans une rue déserte la nuit. La peur aussi qui semble de plus en plus présente, que les enfants se fassent enlever. De plus en plus de parents munissent leurs enfants d'un tracker GPS pour savoir où ils sont et les repérer s'ils se font enlever. Alors bien sûr, les agressions et les violences sexuelles à l'extérieur, ça existe. Mais c'est comme si on oubliait ce que les féministes répètent depuis des années. La famille est l'un des lieux de prédilection de ces violences. Les exemples ne sont que trop nombreux. Gisèle Pellicot, que son mari droguait pour la faire violer par d'autres hommes. Shaïnès Daoud, brûlée vive par son mari. Neige Sino, incestée par son beau-père. Au-delà de ces exemples, les chiffres sont glaçants.
Et oui, en France, il y a une personne sur 10 qui serait victime d'inceste, ce qui fait entre 2 et 3 enfants par classe. Toujours en France, en 2021, il y a eu 113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Toujours en 2021, 12% des personnes de plus de 18 ans déclaraient avoir subi des violences physiques de la part d'un de leurs parents avant l'âge de 15 ans. Et pour ce qui est des personnes LGBT, c'est encore pire, puisque les jeunes bisexuels et homosexuels sont 2 à 10 fois plus concernés par les violences intrafamiliales que les jeunes hétérosexuels. Et ça, c'est des chiffres qui datent de 2021 et qui sont issus d'une étude de l'INED, l'Institut National de la Démographie. La famille, c'est donc un endroit qui est traversé par des inégalités, des rapports de domination, et c'est ça qui en fait un terreau fertile aux violences. La famille, elle est présentée comme un lieu à défendre, une unité à maintenir, mais des fois, ça veut dire cultiver les secrets et donc taire les violences. Toute famille n'est pas toxique. Elle peut aussi être un lieu sécurisant, mais ce qui est sûr, c'est que le combo un papa, une maman et des liens du sang ne le garantit en rien, surtout dans une société qui donne une telle place à la figure du père.
Alors, c'est vrai que le système patriarcal, c'est-à-dire la prédominance d'un père ayant autorité, a pu en effet créer des systèmes familiaux avec un système... dominant et avec le risque de l'abus de pouvoir de la part du père. Et cet abus de pouvoir, il passe par de l'autoritarisme, mais parfois de manière encore plus grave, par le crime sexuel, hein, qui est l'inceste. Alors, pas forcément le patriarche ou le père, mais tout homme qui, après le père, a une certaine influence et dominance.
Patria, patriarcat.
Alors pour approfondir ce que disait Sophie Calabru au micro de France Inter pour l'émission L'Heure Philo, on revient sur le terme de patriarcat. Selon Larousse, pas réputé pour être gauchiste, c'est une forme de famille fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père, mais aussi une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Le patriarcat, c'est donc un modèle de société où la domination de l'homme au sein de la famille s'étend au fonctionnement global de la société et inversement. En gros, on gère le pays en bon père de famille, comme disait Vanessa. C'est une expression qui date de Napoléon et qui a longtemps été inscrite dans le Code civil français. Le bon père de famille, c'est l'incarnation du notable, du propriétaire, celui qui gère les cordons de la bourse. On se fait une petite pause musicale, on écoute Issa Yasuke, des Épines et des Roses.
S'efface pas comme Véléda, vu le temps, il était évident, faut t'évader. Je me dis jamais qu'il est tard et le son dans les tempes me rappelle comment me soigner. La vérité c'est qu'on n'est pas épargné. Ouais, faut en parler, ou avant que vienne la marée. Ouais, faut en parler. Comment changer tout ceci sans savoir la vision? Je me tue et sans le savoir, c'était le suicide par omission. Je peux pas changer tout ça, fils, ça sans monter dans le faisceau. J'ai appris à faire avec ça. On apprend à faire avec ça. Comment changer tout ceci sans savoir la vision? Je me tue mais sans savoir si t'es le suicide par omission. Je peux pas changer tout ça, vie ça sans monter dans le faisceau. J'ai appris à faire avec ça. On apprend à faire avec ça. J'ai de quoi façonner toute la bande sonore. Des scènes à revoir dans tout notre scénar. C'est par l'action que parole sonore. L'issue est sauvée tant que l'air signale. Amen. Pensais-tu que cela ferait aussi mal? Jamais. Y'a des séquences du film qui seront gravées à jamais. J'ai dû censurer des scènes quand même. J'dors pas la nuit vu que la paix est sommeil. Tout tard on aura scié les ronces. C'était les épines quand tu désirais des roses. Que des épines quand tu désirais des roses. Que des épines quand tu désirais des roses. En attendant j'ai fait un rêve. C'est tous autour d'un feu de joie. En attendant, laissons Dieu faire. Ouais, faut faire un tour droit quand t'as peu de joie. Comment changer tout ceci sans savoir la vision? Je me tue et sans savoir si t'es le suicide par omission. Je peux pas changer tout ça, fils, ça sans monter dans le faisceau. J'ai appris à faire avec ça. On apprend à faire avec ça. Le choc est traumatique, encore le malin et ses manies. Dieu soit loué, on est béni. Quelques versets, le mal est banni. Les vagues et ses allées venues, le goût est salé, ce n'est pas de la vanille. Je prends appui sur mes fémurs, on tire des leçons, on va tâcher de faire mieux.
Comme le montre Rebecca Sear, anthropologue, c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'idéalisation de la famille nucléaire, où l'homme est le soutien de famille, a atteint son apogée en Occident. Cette forme familiale semble avoir été délibérément promue par certains gouvernements comme un moyen de sortir les femmes du marché du travail immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, afin de garantir des emplois aux militaires de retour. Cette promotion a été facilitée par l'essor de nouveaux médias de masse, comme la télévision, et par l'essor de puissantes entreprises médiatiques qui ont permis à cette forme familiale de s'imprimer dans la conscience des universitaires et du grand public. Seulement, ce modèle de la famille nucléaire, il est un peu défaillant, car il a été pensé pour une minorité. La chercheuse en sociologie Jade Almeida l'explique très bien.
Et je vous ne choque probablement pas avec ça, on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Le taux de divorce n'a jamais été aussi élevé dans les sociétés occidentales. On se marie de plus en plus tard, on divorce de plus en plus. Finalement, puisque la base du mariage est supposée être l'amour, s'il n'y a plus d'amour, pourquoi rester marié? Puisqu'on ne reste plus marié pour une histoire d'éducation des enfants, il faut rester marié pour que, si jamais ça vous remplit de bonheur, si ça vous remplit pas de bonheur, vous êtes supposé divorcer. Donc je caricature. Avec cette injonction au bonheur, on a pu voir également, il y a eu certes une montée du taux de divorce, mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne pas toutes les classes. Donc en fait, notamment, on a pu remarquer que les familles issues de classes riches, de hautes classes, ont le même taux de divorce qu'il y a 50 ans. Donc c'est-à-dire que c'est, leur mariage reste très stable, alors que les familles issues de classe populaire et les familles issues de moyenne classe ont vu le taux de divorce exploser. Et on retrouve notamment dans certains discours, notamment les discours dans les milieux conservateurs, les milieux traditionnels, cette idée que ben, si les gens respectaient le mariage, si on restait mariés, il y aurait moins de problèmes au niveau de la société. Pourquoi est-ce que, entre guillemets, les pauvres ne restent pas mariés puisque nous, on y arrive? Et en fait, c'est très intéressant parce que si vous gardez en tête ce que je vous ai expliqué depuis le début, c'est-à-dire qu'avant, la famille étendue, la famille multigénérationnelle, c'était les oncles, tantes, cousins, cousines qui se partageaient les tâches, qui se partageaient le labeur, et donc il y avait toujours quelqu'un pour donner un coup de main. Lorsqu'on arrive à cette fameuse cellule familiale, la famille nucléaire, et surtout lorsqu'on arrive à l'échec de la famille nucléaire, donc quand il y a cette chute de conditions socio-économiques qui permet à cette cellule de tenir et d'encaisser les coups durs, le filet de sécurité qu'offrait la famille étendue n'est plus présent. Hein. En fait, on s'est rendu compte que les familles issues de classes riches, en fait, parviennent à maintenir leur taux de mariage tout simplement parce que toutes les aides qui étaient offertes par les familles étendues, surveiller les enfants, etc., ce sont tout simplement des services qu'ils ont les moyens d'employer. Donc, ils ont les moyens d'avoir des nourrices. Ils ont les moyens d'avoir des aides pour l'école. Ils ont les moyens d'avoir des nounous à domicile. Moyens d'avoir du tutoring. Ils ont les moyens d'aller en thérapie, etc., etc. Donc, tous les soutiens que vous pouviez avoir lorsque vous habitiez en clan, quelqu'un qui est toujours là pour vous écouter si vous avez un... Enfin, vous avez des personnes à qui parler, donc moins de sentiment d'isolement. Vous voulez avoir un petit peu de temps à vous, vous pouvez confier les enfants à quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y aura toujours quelqu'un pour garder un œil sur les enfants. Tout ne repose pas en tout le stress de maintenir la famille, ne repose pas sur les épaules d'une ou de deux personnes. Et tout ce stress, finalement, ronge le mariage, bien sûr. Donc, vous avez des études là-dessus qui montrent comment, pourquoi est-ce que les familles riches réussissent à maintenir le même taux de mariage, tout simplement parce qu'ils ont les moyens de recevoir l'aide qui est désormais indisponible pour les familles modernes, qui sont les familles qui sont issues de ces familles nucléaires où, littéralement, vous êtes deux, parfois moins, où littéralement vous êtes isolé et face au même type de tâches, au stress qu'il y avait depuis des générations pour éduquer, s'occuper des enfants, avoir un emploi, etc.
Mais alors, si la famille nucléaire, c'est un mythe, et un endroit de potentielle violence et de domination des femmes, ça sert à quoi de nous rabattre les oreilles avec la valeur famille ?
Ben, il faut croire que ça sert certains intérêts. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vous parler de ma récente passion pour, attention, l'héritage. Alors non, je me suis pas abonnée à des magazines économiques pour savoir comment léguer ma villa sur la Côte d'Azur à ma chatte incontinente sans payer d'impôts. C'est plutôt que j'ai pris conscience d'à quel point l'héritage est à la base des inégalités sociales. Depuis les années 70, ce poids de l'héritage est de plus en plus important. Par exemple, il est de plus en plus dur d'acheter un logement sans héritage, voire c'est impossible si on vit à Paris ou en Haute-Savoie. Mais ce qui est fou, c'est que l'héritage est très très peu critiqué ou remis en question, et ce au nom de la valeur famille. On écoute à ce sujet Mélanie Plouvier dans « Entendez-vous l'écho ?»
La fiscalité successorale, c'est-à-dire l'impôt sur les successions, est de tous les impôts l'impôt le plus détesté. Et le fait tout à fait surprenant, il y a des études sociologiques qui l'ont montré, c'est que il est détesté quelles que soient les franges de la population parmi la et également donc parmi les classes les plus défavorisées de la population, sachant que c'est là le fait tout à fait surprenant que en France, en dessous de 100 000 euros de transmission, il n'y a pas d'impôt. Il y a un abattement. Si vous transmettez moins de 100 000 euros à vos enfants ne seront pas imposés. Or, ceux-là même qui auraient intérêt à une fiscalité successorale redistributive, parce que ils ne paieront pas d'impôts parce qu'ils ont moins de 100 000 euros à transmettre, sont aussi contre la fiscalité successorale. Et là, il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Alors, la question, c'est comment l'expliquer ? Souvent, on mobilise la méconnaissance de la fiscalité successorale, du droit successoral. Alors, incontestablement, c'est l'impôt sur les successions est le plus détesté. Il est aussi le plus surévalué. C'est quasi systématique. C'est-à-dire que quand on demande quel est le taux moyen d'imposition successorale, très souvent, il y a ce chiffre de 45% d'imposition qui est agité, qui en fait correspond au taux le plus haut qui est appliqué uniquement sur les tranches les plus hautes.
Mélanie Plouvier explique qu'en vérité, le taux moyen d'imposition est de 5%. On est bien loin des sirènes agitées par les mouvements anti-taxes. Malgré ça, en France, les 10% des plus aisés captent 70% des sommes transmises. L'héritage, il sert donc pas toutes les familles, mais juste les familles privilégiées, dont la lignée se perpétue et le patrimoine ne cesse d'augmenter. En sacralisant la valeur famille, la transmission des biens et des valeurs à ses enfants, on fait en sorte que ce système injuste soit accepté par des personnes à qui il ne bénéficie pas. Et par la même occasion, on s'empêche de penser des alternatives à l'héritage.
On peut dire aussi, il y a des travaux en sciences politiques qui sont en train de le montrer, c'est inconstruit. Il y a un mouvement anti-taxe qui est parti des États-Unis et qui a vraiment fait ses armes sur la death tax, la taxe sur la mort. Vraiment, les arguments anti-taxe sont construits sur cette fiscalité successorale. Mais il me semble qu'il y a une autre piste, une autre voie à explorer. Je pense que c'est aussi parce qu'on manque d'alternatives qu'il y a ce point de fixation sur la fiscalité successorale. Si je vous demande, est-ce que vous souhaitez payer plus ou moins d'impôts? À poser une question comme ça, oui. On peut se dire que, moi, je suis favorable à payer plus d'impôts, mais il n'en reste pas moins que, à poser la question comme ça, il est vraisemblable que on réponde, je préférerais payer moins d'impôts, y compris moins d'impôts sur les successions. Je pense que si on formulait les choses de manière différente, si on évoquait d'autres pistes possibles, telles que, par exemple, une dotation en capital égal pour tout jeune adulte, des redistributions plus égalitaires de l'héritage ou des héritages, il me semble que ça pourrait contribuer à bouger les lignes. You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard so bad. You know I love you so bad. Like the kid skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers, baby, so bad. You know I love you so bad.
Oh,
On écoutait Love You So Bad d'Ezra Fourman. Bon, on l'a vu, l'héritage, ça reproduit et même ça renforce les inégalités. Talma Desta nous montre comment cette reproduction, elle sert aussi les intérêts des entreprises et le maintien d'une société de classe.
La famille nucléaire présente trois fonctions sociales principales sous le capitalisme. Elle permet déjà de faire naître les futurs travailleurs et travailleuses d'une part et les futurs patrons et héritants de l'autre. Autrement dit, en alimentant la société en force de travail continue, elle permet de faire perdurer la société de classe dans son ensemble. Dans ce même ordre d'idées, elle permet la transmission du capital patrimonial, économique et social, c'est-à-dire qu'elle permet de conserver au sein de sa propre cellule les richesses, le réseau, les biens mobiliers et immobiliers, les placements, etc. Je vais emprunter ici les mots de la résolution de 1979 sur la libération des femmes de la 4e internationale. Elle dit que la famille, ce n'est rien d'autre que, je cite, « l'institution socio-économique fondamentale pour la reproduction, d'une génération à l'autre, des divisions de la société en classes, qui fournit le mécanisme le moins cher et le plus idéologiquement acceptable de reproduction de la force de travail humain. Elle reproduit en son sein les rapports hiérarchiques et autoritaires nécessaires au maintien de la société de classe dans son ensemble. La famille est également un puissant moteur d'asservissement des femmes, puisqu'elles fournissent, pour la maintenir, une somme immense de travail reproductif et ménager gratuit, en plus de voir leur corps sexuellement exploité à des fins de perpétuation de la lignée.
Cette question de la reproduction, elle est revenue sur le devant de la scène récemment avec la sortie d'Emmanuel Macron, jamais avare de métaphores guerrières, et qui a parlé cette fois de « réarmement démographique ». Le fait que le pouvoir s'immisce jusque dans le ventre des femmes, ça n'a rien de nouveau. Sacha Yaropolskaya, militante transféministe à Révolution Permanente, en explique les rouages.
Les politiques natalistes peuvent prendre forme de l'incitation par l'État à concevoir des enfants. Il s'agit de la création de conditions favorables pour la famille. Ce fut par exemple la politique de l'État français de l'après-1945. Il y a aussi l'instauration de primes à la naissance, qui sont en Russie des sommes considérables et qui augmentent cumulativement à chaque nouvel enfant, encourageant les familles nombreuses. Quand l'incitation ne suffit pas à améliorer le solde démographique, il y a aussi la coercition. Des mesures restreignant l'accès à l'IVG et à la contraception, instaurant des peines administratives et pénales pour l'avortement. Jugées inefficaces par plusieurs études académiques sur le sujet, elles restent populaires à droite car elles offrent un semblant de simplicité et permettent de renforcer les valeurs patriarcales disciplinant les femmes.
Comme le dit Isabelle Cambourakis, éditrice et créatrice de la collection féministe Sorcière, Emmanuel Macron s'impose comme un chef autoritaire et martial qui veut avoir la main sur tout. Un petit père du peuple, un pater familias qui irait jusqu'à gérer la reproduction de sa population. Ah bah là voilà la notion de gestion en bon père de famille. En réalité, il ne s'agit pas de répondre à un éventuel problème démographique, nous dit-elle, pour peu qu'il existe, sinon l'État parierait aussi sur l'immigration et intégrerait à l'effort les lesbiennes, les trans et tout ce qui sortirait du modèle hétéro. Le pouvoir défend d'abord une approche identitaire. Son projet, c'est que les femmes blanches fassent des enfants. D'autant qu'en mars dernier, l'Agence régionale de santé de Mayotte annonçait que des ligatures des trompes seraient proposées aux jeunes mères arrivant à l'hôpital. Inciter les femmes à faire des enfants, oui, mais attention, pas n'importe quelle femme. Et ça non plus, ça n'est pas nouveau. C'est la question centrale du livre de l'autrice et militante Françoise Vergès, Le ventre des femmes. On l'écoute au micro de Frustration Magazine.
Qu'au même moment, un État pouvait mener deux politiques, de criminalisation de l'avortement en France, de poursuite, hein, d'envoyer des gens en prison, des médecins, des femmes qui pratiquaient des avortements, de les envoyer en prison, et dans un outre-mer, d'encourager ces avortements et d'encourager la contraception, d'encourager le contrôle des naissances. C'est-à-dire l'idée qu'il y a tout, là, il y en a trop d'enfants et là, il n'y en a pas assez. Et c'était aussi le moment des grands mouvements en France, MLAC, MLF, tout ça, pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Mais le fait que ces mouvements féministes n'aient pas pris aussi complètement en compte ce que ça signifiait, c'est-à-dire d'avoir pensé que c'était juste un truc colonial et non pas une conception à l'intérieur même de l'État de qui peut naître et qui ne doit pas naître, qui doit naître et qui ne doit pas naître. Et donc qui peut être une mère et qui ne doit pas être une mère et qui s'exerce maintenant aussi en France contre les femmes roms ou contre des femmes pauvres ou contre des femmes musulmanes. Je veux dire, donc ça, cette question-là n'avait pas été prise en compte par le mouvement féministe. Donc le livre était à la fois de montrer pourquoi des médecins s'étaient trouvés tout à fait, avaient légitime à faire ça, sans consentement, donc dans une relation de domination raciste, patriarcale, masculine, et comment, finalement, ça n'avait pas fait scandale. Ça n'avait pas fait scandale, c'était complètement... Et on le revoit aujourd'hui dans les paroles du président de la République qui parle de réarmement démographique pour la France, mais alors que à Mayotte, c'est la dénonciation de femmes comoriennes qui feraient tout enfant et qui viendraient polluer la maternité de l'île.
Comme on vient de le voir, la famille nucléaire peut s'avérer une impasse pour bon nombre de personnes. J'évolue au sein d'une famille nucléaire... Donc j'ai pas eu à batailler, ni à me poser trop de questions, ni à devoir me justifier sur mes choix. Enfin si, mais surtout parce que je suis une femme, et souvent c'est à d'autres endroits que je dois me justifier. On est un couple hétéro avec un enfant, mais pour le coup, pas forcément la norme dans mon entourage, vu le nombre de modèles de familles différents qui m'entourent. Et je dois dire que je trouve ça hyper stimulant, pour les membres de ces familles atypiques, mais aussi pour celles et ceux qui sont plutôt familles tradies comme nous. Tous ces modèles qui inventent, réinventent ou viennent bousculer la famille et qui remettent des valeurs d'entraide et de solidarité au premier plan. On vous propose d'explorer avec nous ces modèles de famille lors de l'émission du mois prochain. Et en attendant, on vous laisse avec The Hunt de System Failure.
L'amour c'est beau, oh que c'est beau, oh là 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 que c'est beau. J'aime tes pieds, oh les beaux pieds, oh là 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 les beaux pieds. J'aime tes fesses, je n'en ai jamais vu de si belles. Maman, c'est toi que j'aime.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».